J'aurais envie de basculer un peu dans des questions d'actualité, mais
Oui.
il faut tout de même que je conclue le parcours historique
Oui.
avant de déboucher sur l'actualité. Alors, vous sentez bien que depuis le début, j'ai essayé de... On a fait un parcours rétrospectif à
Oui.
partir de Vatican II, en essayant de montrer que Vatican II était non pas disruptif, ça n'a aucun sens pour un concile, ça ne veut rien dire, mais et que Vatican II était attendu comme un, et a été d'ailleurs, un concile d'ouverture, un concile de, comme on disait, aggiornamento, c'est-à-dire de qui a mis à jour l'Église. Plus ouverte au monde qui l'entourait. Et puis à partir de ce concile, j'ai remonté le temps, on va dire ça comme ça, et nous sommes arrivés la dernière fois à la présentation de l'émergence et de la constitution des morales de la conscience. Alors c'est très intéressant parce que les morales de la conscience, parler des morales de la conscience, c'est déjà parler de l'actualité. Donc c'est là où le point de jonction se fait facilement avec l'actualité. Mais avant de parler de l'actualité, je termine ce que je disais sur les morales de la conscience. Donc il faut bien se dire que les théologiens moralistes à l'époque moderne sont des théologiens qui se font la guerre. Hein, donc c'est on présente souvent les écoles de conscience comme des écoles rivales, concurrentes, qui se disputaient les études de cas. Hein, donc il faut voir ça comme ça, avec étusioristes et probabilistes, etc. Elles se sont tellement fait la guerre, ces écoles de la conscience, que il a bien fallu un jour faire une synthèse. Et au 18e, le théologien qui a fait la synthèse, dit-on, des écoles de la conscience, c'est Saint Alphonse de Liguori, qui a, pour la petite histoire, c'est le patron des théologiens moralistes, et il a écrit une grande synthèse. Et on lui doit, d'une certaine manière, on lui doit une école de la conscience de plus. C'est-à-dire que pour faire la synthèse entre toutes les écoles de la conscience morale, il en a créé une nouvelle qui s'appelle l'équiprobabilisme. Hein, égalité, ex aequo, equi. Donc c'était d'une certaine manière, il a sonné la fin de la récréation, si, hein, la fin de partie entre les écoles de la conscience,
La fin de
et
la
il a créé donc ce qu'on appelle l'équiprobabilisme, un système qui tranchait de façon équilibrée entre les différentes écoles, entre les plus laxistes et les plus exigeantes. Là, je peux tout de suite donner une vignette d'actualité. On se doute bien que lorsque Édouard Philippe a présenté le plan de déconfinement, il a dû trancher en fonction de sa conscience entre différents plans de confinement possible, de déconfinement possible, un déconfinement qui privilégie la sécurité sanitaire et un déconfinement qui privilégie la relance de l'économie. Et donc, il a cherché à prendre. J'ai bien écouté son allocution. D'ailleurs, il a dit, hein, je ne choisis pas, c'est un équilibre. Hein, je ne choisis pas entre la santé et l'économie, c'est un équilibre. Et ça marchera, le déconfinement, si c'est un équilibre. Autrement dit, il a pris une position équiprobabiliste. Hein, on peut la définir comme ça, c'est-à-dire, il est probable que... il y a une seconde vague, mais on n'en sait trop rien. Mais comme c'est probable, il faut prendre des précautions. Donc, entrer dans un déconfinement extrêmement progressif pour atténuer le rebond, s'il y a un rebond, et permettre une certaine relance de l'économie. Il a donc cherché à prendre une position équiprobabiliste, certainement entre différents points de vue qu'il a dû entendre, les experts, médecins, économistes de la santé, etc., hommes politiques, etc. Donc, il a pris cette position de synthèse, qui est en quelque sorte une position équiprobabiliste, mais c'est la position que Alphonse de Liguori prônait dans le cadre des éthiques de la conscience au XVIIIe siècle, l'équiprobabilisme. Alors, cette synthèse a fonctionné, mais c'est également une morale de la conscience, c'est-à-dire que Alphonse de Liguori n'a absolument pas permis un retour aux morales des vertus. Il a ajouté une école de la conscience supplémentaire et elle est censée représenter une position équilibrée entre les différents systèmes. Le deuxième point fort que j'ai déjà largement abordé la dernière fois, c'est de se dire que on a acté, c'est le cas de le dire, l'Église, enfin la théologie, a acté depuis de nombreux siècles que la morale était avant tout une morale des cas, et une morale des cas de conscience centrée sur la loi et la décision autonome en conscience. Bien. Donc on s'est éloigné des morales des vertus. C'est ainsi. Ça veut dire que la morale qui va être enseignée dans les catéchismes, mais qui va être enseignée aussi aux futurs prêtres dans les séminaires, c'est une morale fondée sur les cas de conscience. Je donnais l'exemple à la fois des petits catéchismes. Si vous faites bientôt on va pouvoir retourner dans nos librairies et bibliothèques préférées. Dans les bibliothèques, vous verrez, vous faites cet exercice, vous prenez ce qu'on appelle les petits catéchismes en usage dans les diocèses. Les évêques éditaient par diocèse des catéchismes, et vous regardez les petits catéchismes en usage dans les années, les premières années du 20e, du 20e siècle, fin 19e. C'est une morale de cas de conscience avec des pénitences, puisque c'est une morale destinée aux confesseurs. Ça, c'était la pastorale. Et puis, pour les gens plus savants, il y avait la morale des cas de conscience, alors là, qui faisait l'objet de délibérations morales, d'écoles, etc. Mais pour le bon peuple, si j'ose dire, il s'agissait toujours d'une morale fondée sur le principe du respect ou de l'infraction de la loi, c'est-à-dire, typiquement pendant le confinement, l'attestation de sortie, la dérogation de sortie. La version profane de ça, c'est la dérogation, c'est-à-dire on ne peut plus compter sur la vertu. Si je synthétise maintenant moi-même ce que j'ai dit, on ne peut pas compter sur la vertu du bon peuple qui va forcément ne pas être prudent et qui va forcément refaire des clusters un peu partout. Donc, on sanctionne. On sanctionne avec une dérogation et si il y a une infraction, on fait une punition. Voilà. Donc, c'est la version castanère, si vous voulez, de la morale catholique, c'est ça. C'est pas une morale de la vertu, c'est une morale de la conscience. Alors, il faut quand même dire un mot à la fin du 19e siècle, d'une tentative féconde, mais enfin pas tant que ça, d'un renouveau des études thomistes, parce que vous avez bien entendu que depuis tout ce que j'essaie de vous dire, saint Thomas, il y a longtemps qu'il avait été finalement, l'équilibre de saint Thomas avait été désossé, la somme de théologie avait été désossée, on n'en avait retenu que certains aspects, les aspects les plus intellectuels, les plus spéculatifs, les plus arides et les plus centrés sur la loi et la conscience. Alors, ça a donné ce que ça a donné, les écoles de la conscience, cette espèce de morale pour des confesseurs à des pénitents considérés comme en infraction, à tout ça, le tribunal de la conscience, déjà au Concile de Trente. Bon, ok. Alors, le pape, ça, ce Léon XIII, s'avise qu'on aurait peut-être intérêt, hein, alors, l'Église aurait intérêt à relancer l'étude de saint Thomas, sérieusement. D'où l'encyclique en 1891, Eterni Patris, hein, le Père éternel, destiné à relancer partout les études thomistes, partout, c'est-à-dire dans les facultés, les séminaires, etc. Voilà. Alors, la relance des études thomistes n'a jamais vraiment produit c'est une affaire un peu complexe, mais on n'est jamais vraiment revenu au saint Thomas, maître des vertus et maître de vie spirituelle que j'ai décrit au début. Revenir à saint Thomas, au thomisme, c'est ce qu'on a appelé le néo-thomisme, et donc l'encyclique Aeternae Patris, c'est le développement du thomisme post-Aeternae Patris, c'est ce qu'on appelle le néo-thomisme, un néo-thomisme qui inclut toute la tradition thomiste depuis Thomas jusqu'à nos jours, en quelque sorte. Et vous trouvez aujourd'hui encore des thomistes qui se disent plus tellement néo-thomistes, mais thomistes, et qui essayent qui ont d'ailleurs tout à fait pignon sur rue dans l'Église, c'est même un courant très puissant, très fort. Par exemple, en France, c'est beaucoup le couvent de. L'école dominicaine de Toulouse qui représente ce courant. Pas tellement Paris d'ailleurs, qui a une approche plus historienne, mais le courant tolosain. Puis j'ai mentionné, je crois, la dernière fois, des courants américains, par exemple, tout à fait inattendus, qui essayent de dialoguer avec les philosophies modernes actuelles. Bon. Mais on ne peut pas dire que le néo-thomisme est particulièrement porté du fruit. Après Vatican II, Vatican II, du point de vue de la morale, aura d'abord profité au retour aux sources de la révélation. Donc, les moralistes, si j'ose dire, enfin, comme tous les théologiens, se remettent à partir du texte biblique, et puis à revaloriser une morale fondée sur l'agir historique et non pas une morale fondée sur une nature pérenne. Alors, c'est peut-être ici là où je vais commencer à basculer sur des considérations d'actualité. Le grand débat, pour ne pas dire plus ou pire, la tension et parfois le conflit en morale aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui en particulier, tourne autour de la tension entre dialectique entre nature et culture. C'est vraiment là que tout se joue. Soit vous êtes alors nature dans l'Église, ça veut dire quoi? En théologie catholique, en morale catholique, c'est beaucoup ce qui tourne autour du concept de loi naturelle. Culture, ça va être tout ce qui relève de la construction historique du sujet. Mouvante, et donc ça va être tous les courants de théologie morale qui essayent d'intégrer les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences historiques. Voilà. Le concept qui est toujours central et qui est un concept franchement catholique, qui n'existe pas, en tout cas formulé comme ça, dans les autres confessions chrétiennes, c'est celui de loi naturelle. Et le concept, en tout cas tel qu'il est compris, parce que c'est fort compliqué tout ça, de loi naturelle s'oppose en général à une prise en compte du devenir historique du sujet. Je m'explique, qu'est-ce que la loi naturelle? Alors, je donne une définition extrêmement basique, qui pourrait être beaucoup plus sophistiquée, etc., mais je l'ai donnée l'autre jour, c'est-à-dire il y a presque un an, à Paris 1, dans la faculté de droit, où j'avais un petit colloque. Et donc, j'ai donné cette définition. Je me suis aperçu que les juristes l'avaient bien digéré. Alors, on m'a dit, mais il y avait un théologien dans la salle qui me dit, ce que tu dis est quand même très, très basique. Je dis, oui, c'est très basique, mais les juristes qui étaient devant moi n'en savaient rien. Donc, comme ils n'en savaient rien, j'ai commencé toujours par les fondements. Et donc, qu'est-ce que la loi naturelle? La loi naturelle, telle qu'elle est définie, non pas de manière sophistiquée, mais telle qu'elle est définie, telle qu'on la trouve exprimée dans les textes du catéchisme ou du magistère, dans les grandes encycliques, Jean-Paul II en particulier, c'est ce qui ne change pas. La loi naturelle, c'est ce qui est toujours valable, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture. C'est ce qui est destiné à ne... Enfin, c'est même pas destiné, ça ne change pas. C'est ce qui est universel, c'est-à-dire que la loi naturelle est un principe d'universalité. On peut l'identifier, par exemple, dans le décalogue. C'est une façon de parler de la loi naturelle, c'est-à-dire tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. On pourrait présenter les 10 commandements en mettant « il est naturel de... » Hein, donc, il est naturel de ne pas mentir, il est naturel de ne pas tuer, il est naturel de ne convoiter que son épouse légitime. Voilà. Et tout ce qui serait péché, c'est ce qui n'est pas naturel de faire. Jamais. Jamais, dans aucune situation, justifié par aucun contexte et justifié non plus par aucune intention. Aucun but, c'est pas naturel, donc c'est pas naturel. Après, basta, l'affaire est entendue. C'est donc ce qui ne change jamais. La nature, c'est ce qui ne change jamais. Donc c'est ce qui définit encore une fois un principe d'universalité de la loi morale, au-delà même des confessions religieuses. Hein. C'est-à-dire, la loi naturelle, c'est ce qui permet aussi de définir un socle commun, une plateforme commune avec tous ceux qui n'ont pas de conviction religieuse, pas de conviction chrétienne, mais pas de conviction religieuse du tout. C'est-à-dire qu'on espère que la loi naturelle, eh bien, pour tout homme de bonne volonté, il est naturel de ne pas tuer. Alors, c'est tout l'intérêt de la loi naturelle, c'est une plateforme commune, c'est un socle invariant de principes communs qui garantissent ce qu'on pourrait appeler aussi, ce qui a souvent été appelé l'humanité de l'homme. C'est une expression qu'on retrouve dans la philosophie contemporaine. Qu'est-ce que la loi naturelle? C'est ce qui définit en dernier ressort l'humanité de l'homme, le principe essentiel de ce qui nous fait homme, à la différence des animaux, à la différence des plantes, évidemment. Saint Thomas aurait dit ça un peu autrement, mais bon, c'est à peu près ça. À la différence de... Voilà. Hein, bon. Ce principe de morale naturelle ou de loi naturelle, on ne le trouve pas chez les protestants, officiellement. On le trouve quand même, enfin, il n'est pas exprimé comme ça. On ne le trouve pas non plus exprimé comme ça chez les orthodoxes. Bon, c'est plutôt une marque de l'identité catholique, en tout cas exprimée comme ça. Hein. Oui, c'est l'humanité de l'homme, ce qui constitue en dernier ressort l'humanité de l'homme. Ce principe de la loi naturelle est au fondement tout ce qui fait aujourd'hui les textes officiels du magistère sur et les décisions sur à peu près tout en morale et surtout en ce qui concerne fondement de la morale, morale familiale, morale conjugale, etc. Hein, si je prends, je ne sais pas, une question spéciale du type On va prendre une question de début de vie, une question de fin de vie, début de vie avortement, fin de vie euthanasie. Eh bien, il est naturel de laisser la vie qui vient de Dieu se dérouler naturellement, sans intervention humaine. C'est-à-dire, sous-entendu, sans intervention technique humaine. Donc, dans ce cas-là, la nature s'oppose à la technique. Hein. On ne peut pas manipuler le vivant, ni au début de la vie, ni à la fin de la vie. Hein. Et on retrouve d'ailleurs, oui, j'ai dit ça, on ne peut pas. C'est-à-dire, c'est une morale qui est une morale de la loi. Hein. Si ce n'est pas naturel, c'est pas conforme. On parle donc de loi naturelle. Et cette loi naturelle vient de Dieu, elle est un don de Dieu, elle est inscrite dans le cœur de l'homme, quelle que soit sa religion, même qu'il n'en ait pas. Hein, c'est un don de Dieu, c'est ce que ça. Alors c'est un petit mot savant, mais ça fait chic de le citer. Saint Thomas appelle ça la syndérèse, hein, S-Y-N, dérèse, D-E, accent, R-E, accent, syndérèse. La syndérèse, c'est la capacité qu'a tout homme, toute femme, à discerner le bien du mal. C'est-à-dire que nous avons la capacité volontaire, rationnelle, voulue par Dieu, de discerner naturellement ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Par exemple, saint Thomas, pour en revenir toujours à lui, va dire, même quand l'homme ment, en fait, il ne ment pas. C'est-à-dire, quand l'homme ment, il ment pour se protéger, pour protéger sa nature. Donc, il se trompe en mentant, mais il ne ment pas pour nuire. Il ne ment pas parce qu'il choisit le mal. Il ment parce qu'il pense que le mensonge est pour lui un bien. C'est un peu le raisonnement de saint Thomas. Par exemple, je ne sais pas, moi... il n'y a pas de masque pour le déconfinement. Il n'y avait pas de masque. Maintenant, c'est ça, les masques ne servaient à rien. Maintenant, ils servent à quelque chose. Et même, il y aura une loi pour faire payer, etc. Ce n'est pas un mensonge. Un mensonge d'État, nos responsables n'ont pas vraiment menti. Ils ont menti parce qu'ils pensaient que c'était un bien pour eux. Pour le peuple, j'en sais rien, mais voilà, c'est ça. Donc, ce que saint Thomas veut dire, c'est qu'on ne ment pas, on ne choisit pas le mal en mentant, d'une certaine manière. Hein. C'est un peu toujours l'optimisme de Thomas. On choisit pour se protéger, bon, ou pour protéger autrui, d'ailleurs. Hein. Ça peut aller très loin, hein, d'ailleurs. Protéger autrui par le mensonge, c'est comme ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on cachait les Juifs, les Français cachaient à la maison, et quand l'officier nazi passait et qu'on disait « Est-ce que vous protégez des Juifs ? Est-ce que vous avez... » on mentait, mais on mentait pour un bien. Hein, c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là le mentir vrai. Bon, c'est pas seulement des jongleries, hein, c'est pour montrer que tout ça a une vraie complexité. Et donc, mais tout ça repose sur un principe de base qui est celui de donc la loi naturelle, et que ce principe de loi naturelle, on l'oppose, et là encore c'est une erreur de l'opposer, mais on le met en tension avec l'histoire. Alors l'histoire, c'est évidemment tout ce qui change, tout ce qui est instable, tout ce qui est en devenir, tout ce qui est imparfait, tout ce qui se modifie, se bonifie, ou tout ce qui se dégrade d'ailleurs. C'est ce qu'on peut faire évoluer. C'est notre liberté aussi qui nous permet de changer. Nous ne sommes pas les mêmes, heureusement. Nous évoluons, nous bougeons, nous créons. Alors on voit bien que si on met ces deux principes en tension, parfois même on arrive carrément à des conflits retentissants. Il est très clair que je vous ai dit qu'à Vatican II, il n'y avait pas vraiment de grands textes moraux, sauf Gaudium et Spes, enfin, il y a des principes généraux qui ont un peu vieilli, bon, etc. C'est plutôt après Vatican II que s'est fait le travail de rénovation de la théologie morale. Ce travail de rénovation de la théologie morale s'est fondé sur l'histoire, avant tout. Si je prends par exemple les théologiens francophones, c'est évidemment l'histoire qui a été privilégiée, c'est-à-dire la construction d'un sujet en devenir. Ce n'est pas le courant du magistère après Vatican II, puisque le courant du magistère après Vatican II s'est fondé toujours sur la nature, sur la loi naturelle, sur ce qui est pérenne. Ce qui explique d'ailleurs largement qu'il y ait que les normes définies par le magistère sur tout ce qui est la bioéthique sont des normes de réprobation. Hein. Il n'y a pas d'approbation par le magistère des évolutions bioéthiques de nos sociétés. Et alors, incontestablement, entre théologie et magistère, il peut y avoir certaines tensions parce que les uns, souvent, pas toujours, loin de là, mais souvent actent une morale fondée sur le devenir, tandis que les autres, à savoir le magistère, rappellent les normes intangibles d'une nature immuable. Et là, vous avez deux écoles absolument différentes, en tension et parfois en conflit. Hein. Il faudrait également compléter ce tableau. Ce tableau récent par deux autres notions dont je ne vous ai pas encore parlé. Je m'en aperçois, donc je vais en parler là. Le grand sociologue Weber a décrit deux types d'éthique. Weber, c'est le 19e, a décrit deux types d'éthique différentes. Et cette description sociologique de ces deux éthiques par Weber fait le, si vous l'avez fait, Flores, et puis maintenant est constamment cité partout. Et donc, en travaillant sur l'éthique des gens, hein, l'éthique des gens, c'est ethos, ça veut dire coutume, donc les coutumes, les mœurs, ce que je vous avais dit au début, ça je crois, hein, c'est dit, en fait, on peut repérer deux grands types d'éthique. Il y a l'éthique de conviction, dit-il, et l'éthique de responsabilité. Alors, c'est peut-être d'ailleurs des expressions que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ça, éthique de conviction, éthique de responsabilité. Si vous voulez, l'éthique de conviction, je vais prendre un exemple très simple, on va prendre la révision des lois Claes-Leonetti, donc les lois sur le vivant, et alors on a d'ailleurs centré sur telle ou telle question, mais c'est très vaste, hein, Claes-Leonetti, la révision des lois, beaucoup de choses, c'est pas seulement la PMA, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Pour refuser cette évolution, l'Église catholique a pratiqué une éthique de conviction, c'est-à-dire les convictions morales de l'Église catholique, fondée sur les sources de la révélation, alors la Bible interprétée par la tradition, interprétée par le magistère, tout ça c'est une éthique de conviction, c'est l'éthique catholique. On conduit donc les évêques catholiques à refuser, par exemple, les avancées sur la PMA. Ça c'est une éthique de conviction. Et pour nous, vous voyez, c'est très simple, pardon. Pour nous, cette éthique de conviction, elle est fondée sur, en gros, Bible, tradition et magistère. Ah, ça fait. C'est difficile de faire plus convictionnel que ça. Hein. Mais attention, dit Weber et puis tous ses représentants, il y a aussi dans nos sociétés modernes une éthique ou des éthiques de responsabilité. C'est-à-dire, l'éthique de responsabilité, c'est l'éthique du sujet qui, en conscience, décide, pose une responsabilité. Vous voyez, par exemple, je reviens à une responsabilité autonome. C'est les éthiques de responsabilité, c'est les éthiques qui émergent du XVIIIe siècle, à savoir des lumières du principe de l'autonomie et finalement de la libre détermination. Donc, les éthiques de responsabilité, ce sont des éthiques, la plupart du temps, sécularisées. Les éthiques de la conscience, qui sont les nôtres, celles dans lesquelles on vit aujourd'hui, ce sont des éthiques de responsabilité portées par des courants séculiers ou sécularisés, alors que les éthiques de conviction sont la plupart du temps des éthiques religieuses. J'ai des convictions, donc je pense que je peux choisir ça ou refuser ça. Donc, moi, mon interprétation, c'est que les éthiques de conviction sont plutôt religieuses et que les éthiques de responsabilité sont plutôt séculières. Mais jamais forcer tout ça, parce qu'on pourrait très bien dire, ça, c'est pas parce qu'on a des convictions qu'on peut pas être responsable, et c'est pas parce qu'on est responsable qu'on n'a pas de convictions. C'est pour ça que non, mais c'est très important, parce que si on regarde ce que, là encore, l'allocution d'Edouard Philippe sur le plan de déconfinement, je vous invite à réentendre, vous verrez que forcément, il est obligé de manier à la fois des éthiques de conviction et des éthiques de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est quand on lui a posé la question à la fin de son allocution, et vous avez des enfants, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez les mettre à l'école après le 11 mai? Et là, il a déjà dit, moi je ne parle jamais de ma famille, après il a parlé de sa famille. Donc, pour un homme qui ne voulait pas parler de sa famille, je trouve qu'il en a beaucoup parlé, on sait l'âge de ses enfants, et il a dit, je ne sais plus, que l'école, oui, qu'il... Donc il sait... Après, on n'aurait pas pu lui demander si il était pour ou contre la réouverture des églises, des lieux de culte à la Pentecôte, parce que même s'il a des convictions religieuses, étant Premier ministre, c'est le principe de laïcité qui est privilégié. Quand Mgr Rouget, évêque de Nanterre, a demandé la réouverture des églises, des lieux de culte catholiques, d'ailleurs apparemment sans concertation avec les autres cultes, c'est posé un tout petit problème, et c'était une éthique de conviction. Éthique de conviction qui assumait la laïcité, certes, mais éthique de conviction tout de même. Mais ça n'était pas qu'une éthique de conviction. L'éthique de conviction, c'est pouvoir célébrer les sacrements, le précepte dominical, la joie de retrouver nos communautés chrétiennes et d'y célébrer les sacrements. Bon, très bien. L'éthique de responsabilité, pour le Premier ministre, c'est quoi? C'est... Ah oui, mais si je rouvre les églises et qu'il y a un risque de reprise de l'épidémie, ma responsabilité, c'est de les laisser fermer. Donc, on sentait très bien une éthique de conviction plutôt fondée sur un retour religieux dans les lieux de culte et une éthique de responsabilité au nom du principe de précaution sanitaire pour les regroupements de même taille. Et vous sentez dans le débat, vous avez peut-être remarqué les réactions d'autres évêques, je pense à Mgr Lafont ou à d'autres évêques, Mgr Dubost ou d'autres, qui ont essayé de conjuguer conviction et responsabilité. À savoir, bien sûr qu'on aimerait bien revenir le plus tôt possible dans nos églises, mais... nous sommes d'abord, il faut réfléchir avec les autres cultes, notre responsabilité nous impose de réfléchir avec les autres cultes et de ne pas décider sans eux, et deuxièmement nous devons prendre en compte dans notre discernement la reprise ou non un possible rebond de l'épidémie. Donc nous faisons confiance aux autorités de l'État pour en décider, cette ligne-là rejoignant celle du pape François. Le pape François a été, pour l'Italie, a choisi une éthique de responsabilité, c'est-à-dire faisons confiance aux autorités qui participent au bien commun et donc nous obéissons aux autorités en place. Alors que les évêques autour de Mgr Rouget, en tout cas, ont plutôt choisi une éthique de conviction. Donc on voit bien que ces deux courants éthiques peuvent s'opposer. Alors je terminerai par un autre élément de vocabulaire hyper intéressant, hyper important, qui est, où là on arrive vraiment sur les éthiques qui sont les nôtres aujourd'hui, une fois de plus. Hein. Donc j'ai donné la distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Bon. D'ailleurs, je pourrais compléter en disant éthique de conviction, le magistère, c'est une éthique de conviction. Les théologiens qui favorisent le devenir historique du sujet, c'est plus une éthique de responsabilité. On pourrait, je vais le faire d'ailleurs, donner une autre distinction. Dans les éthiques qui nous entourent, il y a une autre distinction qui est importante à connaître. Ces éthiques sont soit hétéronomes, soit autonomes. Alors là aussi, ce sont des vocabulaires à connaître parce qu'on les trouve à peu près tout le temps aujourd'hui, pas seulement dans l'éthique religieuse, hein, mais à l'hôpital, dans tous les lieux où on réfléchit les questions d'éthique. Une éthique hétéronome, qu'est-ce que c'est ? Hétéros nomos, ça veut dire, nomos c'est la loi en grec, hétéros c'est l'autre. Donc, une éthique hétéronome, hein, c'est une éthique qui ne reconnaît pas sa loi d'abord en soi, mais qui trouve la source de son action hétéros, c'est-à-dire dans un autre, ailleurs, dans l'autre. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous sommes plutôt du côté des éthiques hétéronomes, c'est-à-dire que je ne suis pas à moi-même la source de ma propre loi, mais pour me décider en conscience, eh bien, je me réfère à, j'accepte librement de m'en remettre à une autorité ou à des autorités extérieures. Les sources de la révélation, on retombe, hein, la tradition, le magistère, Dieu, pourrait dire, hétéronome. Donc les grandes traditions religieuses du monde sont hétéronomes. Que ce soit Allah, que ce soit le Dieu de Jésus-Christ ou Yahvé, enfin, c'est hétéronome. Alors que nos contemporains développent des éthiques autonomes, c'est-à-dire nomos la loi, auto autos c'est soi-même, hein, c'est-à-dire je suis ma propre loi, je trouve dans ma conscience, dans ma délibération interne, la source de mon action morale. Là encore, on est sur le courant hérité des Lumières du XVIIIe siècle. Hein, donc on peut... Alors c'est très important parce qu'il y a un texte de référence, vous le trouverez sur Internet, je pense. Si ce n'est en totalité, en tout cas évoqué, vous avez un magnifique débat au début des années 2000 entre Joseph Ratzinger, donc le futur Benoît XVI, et le philosophe Habermas. H-A-B-E-R-M-A-S, Habermas. Habermas est tenant des éthiques de la responsabilité autonome, alors que Ratzinger est tenant des éthiques hétéronomes, convictionnelles, on va dire. Et vous avez un très beau débat qui a marqué l'ensemble de la communauté dans ces cas-là, la communauté scientifique, qui n'est jamais une communauté scientifique, mais enfin, gardons cette illusion. Ce débat a été c'était un peu rencontre du troisième type, hein, parce que pour faire dialoguer Habermas et Ratzinger, c'était. Mais comme les deux intellectuels se sont prêtés au jeu, Et ça donnait quelque chose de très intéressant. Et dans tous les débats éthiques contemporains, on ne se sort pas de cette distinction entre hétéronomie, autonomie, conviction, responsabilité. Donc, comme toujours, le but, c'est de ne pas les opposer, c'est d'essayer de les conjuguer, y compris comme chrétien. Pourquoi comme chrétien ? Parce que, bien entendu, si je suis chrétien, on va dire c'est plutôt une éthique hétéronome. Mais pourquoi l'hétéronomie m'empêcherait-elle d'être autonome ? C'est-à-dire, c'est bien librement que j'accepte d'obéir à un autre qui me dépasse. Bon. Donc, là encore, on ne doit pas opposer tout ça. C'est plutôt des tensions fécondes. Mais ça peut évidemment tourner très mal. Je pense, par exemple, très mal, c'est-à-dire, regardez le contexte français, qui sont des passions françaises. Les passions françaises ont conduit, par exemple, en 2013, à la querelle sur le mariage pour tous. Voilà, querelle sur le mariage pour tous, c'est une querelle entre autonomie et hétéronomie. C'est une querelle entre conviction et responsabilité. Voilà. Et je conclurai aujourd'hui en disant ceci. Les grandes traditions religieuses du monde, dont la nôtre, c'est-à-dire la religion chrétienne, dans sa branche catholique en particulier, sont plongées, immergées, parfois submergées, sont plongés dans un univers, pour les sociétés d'Europe occidentale, dans un univers complètement sécularisé, très sécularisé en tout cas, très sécularisé, qui pratique les éthiques de l'autonomie. Vraiment, de l'autonomie et de la conscience autonome. Donc, c'est ce qui... Il y a plusieurs écoles, j'en parlerai peut-être dans les deux séances de questions-réponses, questions-réponses avec chaque membre du groupe, mais ces écoles aujourd'hui sont des écoles qui sont sécularisées, autonomes, et qui se moquent complètement de... Enfin, qui se moquent, je ne sais pas, mais qui ignorent les traditions religieuses, dans la plupart des cas. Je suis un peu dur là, parce que ce n'est pas toujours vrai, mais qui peuvent... Regardez le débat actuel avec M. Castaner, quand il dit la prière c'est privé, on n'est pas très loin du vieux slogan les curés à la sacristie, c'est un peu ça. Bon. Ces éthiques autonomes, ces éthiques de la conscience autonome sécularisées, sans Dieu, parce que ce sont des éthiques qui la plupart du temps sont devenues des éthiques si ce n'est athée, en tout cas indifférente à la question de Dieu, à la question métaphysique, c'est ces éthiques-là qui nous gouvernent. Et ce sont ces éthiques, évidemment, qui font que nous sommes citoyens cherchant le bien commun, dotés de convictions chrétiennes, dans un monde qui... dans un monde qui admet le pluralisme, et nous avec, c'est-à-dire pluralisme religieux sans religion, pluralisme éthique, pluralisme culturel, etc. Et donc c'est le grand défi pour nous, c'est chrétiens, c'est d'être immergés dans ce monde. Comme tous les chrétiens de toutes les époques, c'est l'épître à Diognète, c'est saint Paul, donc nous sommes dans le monde sans être du monde. Et le grand défi pour nous, c'est ce défi du choc avec les éthiques qu'on pratique sans même le savoir, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire, évidemment, nous sommes dépendants de ces éthiques parce que nous y vivons. Nous décidons aussi tous les jours nous-mêmes en fonction de ces éthiques. Le fameux principe de rentabilité qui a présidé à la suppression des lits d'hôpitaux. Et nous voyons maintenant à quel point la France s'est trouvée dépourvue quand la crise est venue. Sont des éthiques économiques, sociales, de la rentabilité, c'est-à-dire, j'en parlerai peut-être dans les réponses aux questions, c'est très exactement ce qu'on appelle le conséquentialisme. C'est-à-dire, je prends une décision en fonction des conséquences de mon action. Et pour l'hôpital, eh bien, nos responsables politiques, pendant X ministères en tout cas et gouvernements, ont pris des décisions en fonction du bien des patients, on ne sait pas trop, mais des conséquences évaluées pour l'hôpital, ah ça oui, et pour le budget de la nation, ça oui. Et ce dans absolument tous les domaines. Bon, ben écoutez, Jean-Yves, je pense qu'on va rester sur cette capsule-là qui aura donc achevé en quelque sorte le parcours historique et puis ouvert sur des éléments d'actualité. Et je pense que dans les questions, il pourrait y avoir peut-être un petit peu des deux, aussi bien des éléments historiques que des questions d'actualité. Je n'ai fait là qu'évoquer ces théories éthiques contemporaines. Il faut quand même savoir que ces théories éthiques contemporaines, elles sont complètement refusées par le magistère de Jean-Paul II, par exemple. Enfin, complètement. J'exagère peut-être un peu, mais largement. Largement critiquées par le magistère de Jean-Paul II, ne serait-ce que pour leurs implications dans le monde du travail. Qui est en grande souffrance, comme on sait, hélas. Voilà.